sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'architecte Jacques Rougerie a été reçu le 3 juin 2009 par son confrère Roger Taillibert au fauteuil d'André Wojcinski au sein de l'Académie des Beaux-Arts. Canal Académie vous propose d'écouter l'intégralité de la retransmission de son installation sous la coupole de l'Institut de France. Vous entendrez successivement Antoine Poncet, le président de l'Académie des Beaux-Arts pour l'année 2009, ouvrir la séance, puis le discours d'accueil de l'architecte Roger Taillibert et enfin le discours de Jacques Rougerie en hommage à son prédécesseur André Wojcinski, suivi de quelques mots de conclusion et de remerciements d'Antoine Poncet que nous retrouvons dans quelques instants pour l'ouverture de cette séance. Ce jour-là, en mémoire aux victimes de l'accident d'avion du vol Rio de Janeiro-Paris du 1er juin 2009, Antoine Poncet a invité l'Assemblée présente à une minute de silence.
Mesdames, Messieurs, en hommage aux victimes de l'accident aérien qui plonge la France et le Brésil dans la peine, je vous demande une minute de silence. Aux morts. De vous asseoir. La séance est ouverte. Madame, Monsieur les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Vos Altesses royales, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le chancelier, Monsieur le président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'installation de Monsieur Jacques Rougerie, élu dans la section d'architecture de notre Académie le 25 juin 2008. Au fauteuil précédemment occupé par André Wojcinski. Je donne la parole à Monsieur Roger Taillibert.
Avant de mobiliser votre attention quelques instants pour vous souhaiter la bienvenue, j'aimerais vous dire quelques mots de l'histoire de Jacques Rougerie, de ses fréquentations tant nationales qu'internationales. Se recommandant toujours du capitaine Nemo, il était de mon devoir de vérifier cette profonde amitié et reconnaissance du passé. De plus, allant occuper la place de cet ancien élève de Le Corbusier, de ce brillant architecte que fut André Wojcinski, je me devais de me lancer à la recherche de l'excellent plongeur, du constructeur. J'ai trouvé que cette passion visait à prolonger une vie nouvelle dans la mer. J'ai découvert, et vous allez me suivre, que cette nouvelle architecture ne sera pas médiatique, mais ressemble bien davantage à une architecture à la Jules Verne ou à la Winsor McCay avec son personnage onirique de Little Nemo. On pourrait croire que cet homme passionné des profondeurs, de la mer et des rêves, n'hésite pas à subir les mêmes épreuves que nos plus grands spationautes. Et vous aurez raison, son esprit curieux fait des découvertes à l'infini, de la Thaïlande à l'Indonésie, inventant à son tour des solutions indispensables à l'homme de demain. On pourrait croire qu'il applique son art de mérien à celui de l'homme sous-marin, tant ses réalisations que dans le domaine pédagogique. Et vous aurez encore raison, c'est en cela qu'il se découvre et qu'il nous intéresse. Avant d'exposer ici les raisons pour lesquelles on apprécie votre action, laissez-moi tout d'abord faire partager votre message aux personnalités ici présentes aujourd'hui. Madame la ministre, Madame la présidente de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, vous voici sous cette coupole pour accompagner aujourd'hui votre ami Jacques Rougerie, habitué comme vous des grands espaces, mais si lui côtoie plus fréquemment les profondeurs, bien qu'il ne dédaigne pas l'espace, vous avez préféré la Cité des Étoiles, vous, la seule femme française à avoir côtoyé l'éternité de la voûte céleste. Vous devez vous sentir chez vous, au milieu de nos immortels. Cher Jean-Louis Borloo, Monsieur le ministre d'État de l'écologie, de l'énergie et du développement durable, de l'aménagement du territoire, vous partagez avec Jacques Rougerie la passion de la mer et le souci de la protection de l'environnement. Si vous êtes présent aujourd'hui, ce n'est pas pour lancer un nouveau Grenelle de l'environnement ou de la mer, mais pour ce qui est du développement durable, comme disent nos amis les Anglais. Vous êtes the right man in the right place, parmi nos immortels. Et pour mieux vous y aider, nous en accueillerons un de plus. Pensez-vous pouvoir faire mieux? Quant à vous, Yves Coppens, ou devrais-je plutôt dire, cher maître, car vous êtes l'un des nôtres, vous êtes déjà immortel, et vous ne cessez de nous vieillir depuis que vous avez retrouvé Lucie, notre ancêtre. Mais concernant le développement privilégiant l'acquis sur l'inné, vous préférez vous attacher au développement technique et culturel, estimant qu'il dépasse le développement biologique. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, vos altesses royales, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le chancelier, Monsieur le président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs. Monsieur, je souhaiterais m'attarder quelques instants sur l'histoire de votre vie. Jacques Rougerie, vous êtes né en 1945. D'une mère professeure de mathématiques et d'un père biogéographe, compagnon de Théodore Monod. Vous avez déjà un pied dans l'aventure en voyant le jour. Peu après votre naissance, votre père, spécialiste des pays tropicaux et de l'Afrique en particulier, embarque toute votre petite famille pour la Côte d'Ivoire. Vous y resterez jusqu'à l'âge de 11 ans et ce séjour qui influencera tous les cours de votre vie. Car quand vous repensez à cette période à Abidjan, c'est toujours le souvenir de la mer qui vous vient le premier à l'esprit. Cette force de l'élément liquide s'est gravée en vous à jamais et vous accompagnera tout au long de votre vie personnelle et professionnelle. Vous découvrez la natation très tôt avec vos camarades. Elle sera une de vos passions. Mais à 11 ans, tout change. Vous revenez en France. Et vous mettez des années à comprendre les codes et les obligations de ce nouveau monde que vous découvrez. Vous venez juste de rentrer quand votre père a l'idée de vous emmener au cinéma voir le premier film de Cousteau, Le monde du silence. Ces images ne vous quitteront plus et votre destinée est désormais écrite. Elles vous conduiront à alterner les cours d'architecture aux Beaux-Arts et les cours d'océanographie à l'Institut océanographique de Paris. Vos recherches vous amènent à passer deux thèses le même jour, fait unique dans les annales. L'une fondée sur la reconversion d'une communauté de pêcheurs de la mer de Banda en Indonésie, en agriculteurs de la mer établis dans une véritable cité lacustre. L'autre mêlant technologie et prospective et proposant le principe d'une université internationale de la mer, mobile sur les océans du globe. Diplômé d'architecture en 72, guidé par Paul Mémon, votre professeur, auteur de Villes flottantes au Japon, vous êtes lancé et vous n'arrêtez plus. En 73, vous créez aux îles Vierges le village sous la mer. Vous fondez en 1974 le Centre d'architecture de la mer et de l'espace. Et en 76, vous êtes déjà professeur d'architecture. En 77, vous créez votre premier habitat sous la mer, Galatée. En 79, l'aquascope, semi-submersible d'observation sous-marine. Et en 82, le voilier Aquaspace à coque centrale transparence. En 93, l'Aqualab. Et sans oublier surtout le projet Sea Orbiter, programme d'observation du monde sous-marin et de l'interface océan-atmosphère. Par le biais d'un vaisseau révolutionnaire dérivant dans les grands courants océaniques et accueillant à son bord des équipes internationales et pluridisciplinaires pour des programmes scientifiques et éducatifs à forte valeur médiatique. Bien d'autres suivront. Dès lors, vous créez des vaisseaux futuristes et vous souhaitez que l'humanité tisse de nouveaux liens avec le milieu naturel. Passionné par la mer, vous concevez des projets originaux, habité par une idée forte qui guide votre inspiration. Développez un cadre de vie qui intègre les formes naturelles et offre une dimension de durabilité et de responsabilité envers les générations futures. Vous vous appuyez la plupart du temps sur la parfaite image d'adaptation au milieu qu'offre l'observation de la flore et de la faune marine, ce qui leur donne un caractère esthétique résolument nouveau. Vous êtes le premier à penser les maisons sous-marines, en ces termes, et vous êtes peu à peu devenu l'architecte de la mer. Et vous êtes entouré d'une équipe d'architectes, de designers, d'ingénieurs, de paysagistes, de biologistes, de marins, de sociologues ou de poètes. Dans cette recherche des formes des autres, d'un autre univers, le dessin de la bulle semble celui qui vous a le plus inspiré. Une simple bulle, petite perle d'air qui résiste aux pressions et prend toutes les formes. Pour tous ceux qui désirent vivre dans la mer, elle est une énigme et une inspiration. Un problème et un modèle parfait. Car pour vous, Jacques Rougeri, le devenir de l'homme est sur la terre, mais la connaissance est sous la mer. Les honneurs ne vous oublieront pas non plus. En 1979, vous recevrez le prix de l'Académie d'architecture. En 1981, celui de l'Union internationale des architectes. Vous serez fait officier de l'ordre du mérite maritime. Vous êtes intronisé membre de l'Explorer Club de New York en 2002. En 2005, vous êtes fait officier de l'Ordre des Arts et Lettres. Et en 2008, notre académie vous choisit pour nous rejoindre et occuper le fauteuil d'un grand architecte, André Wojcinski, habité par la richesse créatrice de son maître Le Corbusier. À présent, comme sur une scène de théâtre, tous les éléments de la pièce sont en place. Reprenons où nous en étions. Après cette énumération non exhaustive, votre vraie vie va commencer. Et c'est votre passion de la mer qui reprend le dessus. Vous ne serez pas seulement un architecte de la mer, mais vous serez ce que vous définissez vous-même par ce terme de mérien, un homme sous-marin. Désormais, vous serez de toutes les grandes aventures humaines. Et ferez la connaissance de ses plus grands héros qui deviendront vos amis. Deleuze, Jacques Mayol, qui vous rejoint dans l'aquabulle, une de vos réalisations. Cousteau, qui vous a fait découvrir ce monde, vous plongez sur l'épave du Roraima en Antarctica. Jean-Louis Etienne vous fera participer à la mission Antarctica. Et vous permettra de plonger sous les glaces du Spitzberg. Volodya Titov vous offre cette chance incroyable de plonger au cœur de la Cité des Étoiles près de Moscou, sur une station Mir immergée, dans une piscine d'entraînement. Et vous faites la connaissance de Jean-Louis Chrétien, qui vous fait découvrir l'espace et avec qui vous partagez de superbes plongées. Vous faites se rejoindre deux grandes aventures de notre temps, l'exploration spatiale et celle du monde sous-marin. En effet, vous continuez à participer au programme des maisons sous-marines américaines, notamment au comté de Bill Todd, votre ami de la NASA, responsable du programme NEMO d'entraînement des astronautes sous la mer. On dit de vous que vous êtes l'homme des rêves immergés et que vous revendiquez votre filiation avec le capitaine NEMO. Car de la mer à la lune, il n'y a finalement que le rêve de certains hommes et le génie de quelques autres. Visionnaire, vous l'êtes à coup sûr, mais utopiste, non, et vous le revendiquez. Vous êtes l'homme des rêves jetés sur le papier, qui savait faire naître des réalisations extraordinaires, symbole de l'unité entre l'homme et sa passion, et ce n'est pas sans raison que tel un capitaine Nemo, vous avez jeté l'ancre sous le pont de la Concorde, où est amarré votre pénis Saint-Paul, à la fois refuge, quand vous n'êtes pas à Locmo, ou à courir le monde, lieu de travail et surtout de création. Passionné par la mer, vous êtes habité par une idée qui guide votre inspiration, construire des structures qui apprennent à vivre la mer. à la comprendre, à la conquérir. Ce qui vous amène en 1974 à créer le Centre d'architecture de la mer et de l'espace, devenu l'association Espace-Mer. Car si habiter la mer est une aventure qui fait certes rêver, s'inscrivant dans la réalité de demain, elle appartient d'ores et déjà au domaine du possible. Vous êtes convaincu que seule une présence de l'homme dans le monde sous-marin permettra de préserver les équilibres biologiques si fragiles qui la composent. Vous êtes également cofondateur et président de l'Association pour la gestion planétaire des océans. Vous souhaitez avant tout que l'humanité tisse de nouveaux liens avec le milieu naturel, et pour cela, vous n'hésitez pas à faire preuve de pédagogie et à miser sur la jeunesse, en étant un des initiateurs, avec Xavier Darcos, du Grenelle de l'environnement à l'école. Le comité national de l'école AGIT, auquel vous avez adhéré dès 2008. Mais à présent, je vais vous raconter une histoire dans l'histoire, celle de Jacques Rougerie, que j'appellerai dorénavant le Mérien, et celle de l'Italo Nemo, héros du monde surréaliste de la bande dessinée, créée par Winsor McCay au début du siècle dernier, et qui nous servira de fil conducteur pour pénétrer le monde moderne. Jacques Rougerie, loin d'une plaisante bande dessinée, vous a démontré un classicisme visionnaire, environnemental. Enfin, le règne de la vérité dans l'humour voit cela, et vous étiez alors un visionnaire. Vous vous rendez à Abu Dhabi pour proposer avec des financiers habiles le plus grand océanographique centre, l'Italo Nemo. Vous y construirez le plus grand centre de réflexion environnementale. Monsieur, vous tenez à l'éducation de toute cette jeunesse, à cette venue du désert comme à celle du monde entier. Vous adorez le monde sous-marin. Vous voulez que toute la jeunesse plonge et en admire la richesse. Monsieur, rien ne vous arrête plus. Vous suivez vos objectifs. Vous les atteignez. Le monde regarde le Mérien. Vous n'avez pas de rêve fabuleux. Vous maîtrisez la matière. Vous admirez la force organique et expressionniste de l'architecture. Vous ne rêvez pas, votre main révèle les formes gestuelles parmi les plus riches de l'homme. On trouve dans votre pédagogie une passion pour l'éducation des enfants. Vous préconisez la création des très grands sites informatiques et intellectuels, et interactifs aussi, international, favorisant les échanges. Regardons le jeu devenu l'enfer éducatif des enfants. Tout le monde ne peut pas aller sous la mer, milieu riche et mythique, révélant les rêves évoqués par le capitaine Nemo. Après l'air, nous souhaitons que la mer soit proche de nous et nous dévoile ses richesses. Difficiles conquêtes, difficiles espoirs. Mais le capitaine Nemo a toujours connu le succès. Aujourd'hui, vous êtes au milieu de vos confrères et Claude Parent, l'homme de l'oblique, vous expliquera ce que peut signifier le mot solidarité au méridien que vous êtes. Mais pourquoi notre Mérien occupe-t-il toujours avec Little Nemo des bandes dessinées du New York Herald Tribune ? J'ai mis très longtemps à comprendre, mais mon ami Claude Parent, l'homme de l'oblique, m'a rappelé combien les élections étaient difficiles sous la coupole, le mérite aussi, la création quelquefois, lorsque l'esprit créateur doit être sauvegardé des difficultés s'estompe. Notre Mérien débarqua et se posa brillamment au milieu de ses futurs confrères. Claude Parent, l'homme de l'oblique, a supporté pendant des années d'être enfermé dans un bathyscaphe et comme la plongée devenait incommode, un monde meilleur est apparu, qui le reconnut comme étant un environnement complexe au sein de notre compagnie. Jacques Rougerie, vous êtes un homme hors du commun, passionné par la conquête spatio-marine. Vous êtes le digne descendant du capitaine Nemo et son créateur vous lie une admiration sans faille. Monsieur, vous deviez être couronné, influencé par Victor McGee, habile créateur des dessins de bande dessinée, qui sont paris dans la presse américaine voilà un siècle, dans laquelle son héros meurt durant un rêve fantastique prémonitoire du futur, au cours de ses nombreux voyages au pays de Sumberland. Vous aurait-il aperçu, monsieur, l'auriez-vous rencontré, alors qu'il recherchait le calme, Sumberland le lui apporta sur la mer de la tranquillité. Quels rêves viennent vers vous? de le détour géant, désespoir d'île artificielle, vous exprimez la richesse de vos rêves. Aujourd'hui, Jacques Rouchy, vous êtes devenu l'ami des derniers aventuriers de notre époque. Qu'il s'agisse de Jean-Louis Chrétien, de Jean-Louis Étienne et de combien d'autres. Et à partir de vos expériences communes, vous étudiez l'architecture du futur. C'est donc avec une grande joie que l'Académie accueille le premier spationaute français, ou mérien, comme vous préférez vous définir vous-même, et dresse aujourd'hui son portrait plein de complicité. Et je forme un vœu, celui de voir apparaître dans la bande dessinée de demain les mêmes rêves que jadis, cette image qui vous a conduit sur la Lune, où le rêve prémonitoire vous a fait abandonner l'abstraction pour un espace plein de réalisme. Pourquoi n'avons-nous pas eu connaissance de ces informations quand vous, monsieur Amérien, allez cohabiter avec les plus grands noms de l'espace dans la Cité des Étoiles comme Titov? Il est vrai que le personnage de Little Nemo fut évoqué un siècle plus tôt en Amérique, soit un siècle avant votre aventure académique. Je crois pour ma part que votre vision jules-vernienne vous a mobilisé sur la richesse vivante de la mer, mais aussi sur l'espace, monsieur le Mérien. Toutes vos créations ordonnées physiquement traduisant votre passion pour la bionique marine, c'est-à-dire pour la transposition des formes vivantes en structures construites. Vous estimez qu'il est primordial de conserver une osmose parfaite entre le milieu, la structure et l'homme qui doit y vivre. Vos créations sont loin d'être des rêves éphémères, bien au contraire. Car pour vous, tout ce qu'un homme peut imaginer, d'autres hommes sont capables de le réaliser. Vous devenez un poète visionnaire. La principauté de Monaco vient vers vous et s'empare de votre savoir. Vous la guidez vers une riche vision onirique, en vous éloignant des fonds marins du capitaine Nemo. Quel vaste projet, quelle belle image du futur à méditer. En fait, la ville du futur, sur la mer, promet une mégapole se muant en cité lacustre. Vous montrez ici que la vie existe au pays des songes merveilleux et vous n'avez pas oublié que ce vieux rocher tire son amour et sa conviction de la mer. Mais monsieur le Mérien, s'éloignant des rêves de la BD de Winsor McCay, s'en va construire de magnifiques piscines, de grands établissements où la mer est inondable avec sa vie profonde et calme. Et puis c'est Dunkerque, Calais, le Nausicaa de Boulogne, l'aquarium de La Rochelle, sans oublier celui du Trocadéro que vous avez complètement remodelé. Et que dire de celui de Kobe au Japon? Ils ont reçu plus de 10 millions d'amoureux de la mer, heureux de vivre en symbiose avec l'espace sous-marin vivant. Que dire aussi de ce fabuleux projet de musée d'archéologie d'Alexandrie ou de celui de Dubai City dans l'océan? Lauréat du concours d'idées lancé par le président Moubarak et le directeur du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, vous avez voulu proposer à tout un chacun la possibilité d'effectuer un voyage à travers le temps. À tout un chacun la possibilité d'effectuer un voyage à travers le temps et l'espace, de s'immerger au cœur de la mer Méditerranée, en toute sécurité, pour partir à la rencontre des merveilles du palais de Cléopâtre et de tous les autres vestiges de la baie. Votre réflexion d'implantation architecturale s'est, dès le début, appropriée une volonté constante de développer des techniques adaptées à la spécificité historique et patrimoniale du site choisi. Vous avez comme préoccupation de tous les instants d'en respecter et d'en préserver l'authenticité. Belvédère sacré, à la promenade du bord de mer, il est suspendu au-dessus des flots et fixé aux quatre points cardinaux par d'immenses voiles de felouk stylisées, surgissant en plein cœur de la baie. Ce sera aussi le premier musée sous-marin au plein cœur de la baie. Le premier musée sous-marin du monde, amené à devenir sous l'égide de l'UNESCO et dans la droite ligne de la bibliothèque d'Alexandrie, une véritable banque de données mondiales, il correspondra à votre vision humaniste et à la mission que vous vous êtes fixée, qui consiste à chaque instant à ouvrir une nouvelle fenêtre qui va renforcer le rapport que l'homme tisse depuis l'aube de l'humanité avec la mer. Jacques Rougerie, vous êtes acquis très jeune une place au sein de notre compagnie. où d'autres visionnaires viendront, je l'espère, vous rejoindre. Je ne puis que regretter aujourd'hui qu'aucune femme de talent ne fasse partie de notre section. Nous sommes en fait la seule section de cette académie que l'on pourrait croire à entacher de discrimination. De ce point de vue, nous sommes infirmes de cette dotation, à mon grand regret. Espérons que, tout comme le personnage d'Oliphant Nemo de Summerland, pays du roi Morpheus, vous finirez par rencontrer un jour une princesse au royaume des immortels. Enfin, si dès 1915, cette BD américaine annonçait déjà la force du capitaine Nemo qui vous a tant inspiré, comment ne pas poursuivre dans cette voie que vous aimez pour y faire de nouvelles découvertes? Et pourquoi ne pas battre votre record de 1992? Mais ce n'est pas votre seule passion. Car comme vous l'avez écrit, en fondant avec Jean-Loup Chrétien votre association Espace Mer, la mer et l'espace sont les deux grandes aventures de notre époque, les seules qui nous autorisent encore à rêver. Au contraire de Summerland ou Segar Little Nemo, vous vivez dans le monde réel et vous prenez soin. Vous vous attachez depuis bientôt plus de 30 ans à transmettre aux futures générations les valeurs éducatives et les outils pédagogiques que prône l'enseignement du monde sous-marin en tant qu'élément clé de la construction des sociétés de demain. Pour preuve, vous intégrez dans chacun de vos nouveaux projets une réflexion durable où le design est toujours indissociable d'un concept environnemental fort, qui ce soit pour bâtir des tours à énergie positive, des bâtiments à faible consommation énergétique ou encore des musées bioénergétiques. Le futur ne vous apparaît pas sombre, bien au contraire, car comme vous l'avez déclaré vous-même, je n'oublie pas les horreurs dont il a été capable et les atrocités qu'il commet encore tous les jours. Mais je crois que l'homme est capable de faire que le futur soit une belle réalité. Monsieur, vous allez donc siéger avec nous et tous vos confrères seront heureux de se familiariser avec les fonds marins, ses subtilités, la vie des profondeurs et de l'espace. Vous nous exposerez vos sensations, les miracles de la vie sous-marine, la bionique qui vous fascine, et vous les transmettrez à ceux que vous avez baptisés dans votre ouvrage de 85, les enfants du capitaine Nemo. Vous nous parlerez également de cette nouvelle prophétie ferme, très à la mode de nos jours, celle des mériens, objet de votre dernier ouvrage. Pour vous, l'eau est un mode de vie, et je le traduis dans mon architecture. L'essentiel de ma vie réside sur l'eau, en accompagnement de l'eau. L'eau est omniprésente dans ma vie professionnelle et ma vie privée. Grâce à vous, elle deviendra aussi un peu pour nous, puisque vous êtes à présent l'un des nôtres. Bienvenue à vous, Jacques Rougerie, monsieur le mérien. En somme, vous avez embarqué et vous êtes maintenant amarré.
Mon cher Roger Talbert, je vous remercie pour ce discours. La parole est à présent à monsieur Jacques Rougerie.
Mesdames, messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, votre Altesse royale, messieurs les officiers généraux, monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire général perpétuel, voyez l'émotion est présente. Mesdames, messieurs et surtout chers amis, au préalable, je vous dois un aveu, un secret. Il faut que vous sachiez que malgré les apparences et mon bel habit vert, je suis un mammifère marin. Habitué à vivre dans l'eau, à l'extérieur, je deviens vulnérable et mon souffle s'essouffle. Ne m'en veuillez donc pas si le débit de mon discours est parfois haletant. Peut-être aussi suis-je très ému aujourd'hui de me retrouver devant vous, dans ce lieu prestigieux. Claude Nougaro me disait « Le silence, c'est la parole des anges ». Aujourd'hui, en cet instant précis, je leur laisserai bien volontiers la parole aux anges. Certains honneurs bouleversent il vous rassure et en même temps vous fragilise. En célébrant l'ascension d'un sommet, on peut penser à une chute toujours possible. Oiseau de mer, près de vertige, devra-t-il délaisser les falaises et le grand air pour nicher définitivement dans le glorieux fauteuil qui lui tend les bras? L'enfant rêveur qui dessinait des étoiles de mer sur le tableau noir de Prévert, va-t-il se retrouver au tableau d'honneur couvert d'or et de laurier? Le mammifère marin plongera-t-il désormais avec des palmes académiques? Le rebelle a rendu les armes, mais il a gardé l'épée. Peut-être pour se défendre d'en avoir accepté les honneurs. Aujourd'hui, il s'interroge. La réponse se trouve ici. Les seuls honneurs qui nous obligent viennent de ceux que l'on estime, et je vous estime. Quand je vous regarde, je vois en surimpression vos œuvres. Elles symbolisent l'idée que je me fais d'une architecture ouverte au siècle, à la créativité universelle. Et puis, il y a le fauteuil, le grand fauteuil d'André Wojcinski. André Wojcinski, le hasard n'a pas voulu que je le rencontre. Aujourd'hui, ce même hasard, par vous généré, établit en plein les déliés de nos destins. Il révèle en filigrane des connivences et scelle une alliance imprévue. Grâce à vous, l'enfant rêveur que je suis pourrait trouver le culot de grimper sur ses genoux et de lui demander « André, dessine-moi une maison ». André Wojcinski a dessiné beaucoup plus que des maisons. Il y a exactement 93 ans, le 3 juin 1916, à Remiremont dans les Vosges naissait Wojcinski. À 7 ans, il avait déjà choisi d'être architecte. Malgré la jeunesse de ce choix, il resta fidèle et, de manière exceptionnelle, en fit alors un guide de vie. Son rêve d'enfant devait reposer sur des affinités sensibles que son jeune âge ne pouvait clairement identifier. Orienté vers les mathématiques, il exerçait déjà, avec talent, l'expression géométrique de l'espace. À 17 ans, une tentation pour le théâtre, comédien ou architecte. Son désir fort de participer à la société active l'entraînera finalement vers l'art de construire. Dès 1934, il intègre l'école des Beaux-Arts de Paris. Descendant de la noblesse polonaise et d'origine protestante, il est confronté à la vulgarité des mœurs et aux brimades. Blessé au plus profond de lui, il cherche où se trouve l'architecture. En dessinant des chapiteaux ioniques ou corinthiens, des frontons ou des corniches, il s'interroge. Son questionnement porte essentiellement sur notre devenir d'architecte. Désorienté, il ne renonce pas. Que serait-il advenu du jeune étudiant en architecture, accablé de classicisme, si l'un de ses camarades ne lui avait fait passer sous le manteau un livre, le livre du diable? Le diable, c'était Le Corbusier, l'enfer d'architecture moderne. Le livre s'intitulait « Vers une architecture ». Aux Beaux-Arts, André a la sensation de ne faire rien d'autre que du décor. La vision de Le Corbusier lui ouvre de nouveaux horizons très vite. Il déplore un décalage flagrant entre l'architecture telle qu'elle est enseignée et le monde contemporain. Cette lecture passionna Wojcinski et le réconcilia avec sa vocation première. Elle lui insuffla aussi le courage indispensable pour pousser la porte du Met au 35 rue de Sèvres, adresse mythique où officiait Le Corbusier. Wojcinski avait 20 ans. Il restera 20 autres années son collaborateur le plus proche. À l'ombre de ce géant, il devait avancer, développer ses propres concepts d'une architecture simple et porteuse pour une société de plus en plus complexe. Avant de continuer, j'aimerais remercier Roger Taillebert pour les belles paroles qu'il vient de prononcer à mon endroit. Lors de la réception d'André Wojcinski, de la même place où je m'exprime aujourd'hui, il nous rappelait qu'Alvar Aalto, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer, Fray Otto, Richard Neutra, Frank Lloyd Wright, faisaient tous partie d'une école dite non académique. Ils incarnèrent des forces nouvelles capables d'épurer le décor. L'architecte Adolf Loth intitula son manifeste « L'ornement est un crime ». Dans la même période, la peinture, la sculpture et la musique prenaient un élan peu courant dans ce siècle. Braque, Chagall, Picasso, Riopelle, Giacometti, Klee, Schoenberg, Boulez et combien d'autres ouvraient des voies nouvelles. Je crois profondément que l'artiste contemporain n'est plus simplement témoin, mais aussi un guide. Le bâtisseur n'est plus seulement le décorateur d'un siècle et le fournisseur d'époque, il devient un concepteur d'harmonie temporaire. L'art ne se cantonne plus à la cité, il est partout et accompagne notre quotidien. Quant à l'architecte, il n'est pas seulement celui qui dresse des murs pour protéger les hommes du vent ou celui qui couvre d'un toit pour les abriter de la pluie. Désormais, il est un façonneur d'espace, alchimiste du présent. Il est toujours en quête d'idéal et d'une harmonie parfois rudement obtenue, mais qui allie rêve et réalité. Quand André Wojcinski parle de la maison de la culture de Grenoble, voulue par le ministre André Malraux, sa devise est « voir des hommes avant de s'autoriser à voir des formes architecturales ». Ce seront les maîtres mots de réalisations telles que l'Université des Arts de Takarazuka au Japon et le ministère de la Défense à Beyrouth. André nous rappelait « L'architecte veut connaître ses femmes et ses hommes que son architecture va conditionner. Il pousse sa connaissance jusqu'à la compréhension. Il s'aperçoit qu'à force de les comprendre, il est pris pour eux d'une affection si forte qu'il ne dit plus « je les comprends ». Il dit « je les aime ». Alors, mais seulement par la force de ce sentiment et par la concentration sur soi, il atteint un état surrationnel, l'état esthétique et poétique de la pensée. Je crois qu'ici réside l'essentiel. L'architecte doit sublimer la curiosité et la passion des autres. Quand on bâtit pour des hommes, ce n'est pas sans conséquence pour la planète. Que ce soit au cœur originel des océans ou dans les aléas de la cité, si l'architecte est un artiste, comme vous en défendez l'idée, alors jamais artiste n'aura plié sur le poids de tant de responsabilités. L'architecte modifie les courbes de la terre, occupe une parcelle de terre et peut cacher un morceau du ciel. Il peut gâcher l'horizon des hommes pendant longtemps. S'il se trompe, son échec ne passera pas inaperçu. Il laissera inévitablement des séquelles. De la réussite de son œuvre dépendent des destins. De sa démarche visionnaire jaillira, ou non, le développement évident d'une société, son bonheur et ou son malheur. André Wojcinski était aussi animé par ce scrupule. Nourri par l'héritage de Le Corbusier, il se disait plus volontiers bâtisseur qu'architecte. Il n'entreprenait de démarche qu'après de longues enquêtes, de profondes réflexions, des échanges répétés. Cette volonté, il exprimait ainsi. Être architecte, c'est d'abord voir, écouter, comprendre, pour ensuite agir, réfléchir avant d'agir. Pour le jeune architecte, impatient de reconstruire le monde à son trait, la démarche n'est pas toujours évidente. Il lui faut vivre un choc, un déclic. Ce choc, André Wojcinski l'a éprouvé à l'époque du grand projet de la ville radieuse. Il était le bras droit de Le Corbusier. Ce rêve, jamais réalisé, de repenser en unité d'habitation et espacer à l'échelle humaine les cités contemporaines, fut son déclic. Nehru, alors ministre de l'Inde, demande à Le Corbusier de venir étudier la possibilité d'une ville nouvelle sur le site de Chandigarh. Pour le jeune Wojcinski, c'est l'aboutissement de tous ses espoirs, le grand projet d'un maître auquel il s'est pleinement associé. Ce grand projet, maintes fois repoussé par une France frileuse, va enfin voir le jour. Wojcinski racontait. À son retour, Le Corbusier m'a demandé de venir le chercher à l'aéroport. Il descend de l'avion, je le vois arriver. Il ne me dit même pas bonjour. Simplement, « Ah, Wojcinski, là-bas. Tout est différent. on ne peut pas faire la ville radieuse. J'étais évidemment déçu, je ne comprenais pas. Je voyais déjà la ville radieuse au pied de l'Himalaya, je lui demande. Mais pourquoi ? Vous pouvez faire une ville ? Non, on ne peut pas faire des unités d'habitation. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que tous les soirs, les hommes et les femmes prennent un lit pliant sur leurs épaules et sortent pour dormir dehors. Voilà, c'était fondamental pour Le Corbusier et cela allait déterminer tout l'urbanisme et toute l'architecture pour Chandigarh. De cette anecdote fondatrice allait naître une prise de conscience irréversible. Militante pour une créativité humaine, humaniste, ethnologique et même anthropologique. André Wojcinski militait pour une architecture active. Dans son livre « L'architecture active », il résume « L'architecture au sens large du terme, qui englobe l'urbanisme, est l'organisation d'un milieu physique. Ce milieu exerce de multiples actions sur nous. L'architecture consiste à l'organiser pour que ces actions soient favorables à la diminution, voire la suppression d'actions néfastes. Elle rend le milieu encore plus agissant qu'un milieu naturel. L'architecture est active. Elle agit sur notre santé, nos gestes les plus simples, nos mouvements, nos actes, depuis ceux de la famille ou du groupe social le plus élémentaire jusqu'à ceux des groupes sociaux les plus complexes. Elle agit sur la pensée collective qui régit toute société et la pensée individuelle qui anime notre vie intérieure. Cette nouvelle manière de voir l'architecture ouvre la voie à une nouvelle esthétique. La vision d'une architecture faite d'énergie plus que de matière, dont la beauté serait l'effet résultant de toutes les énergies inhérentes à l'œuvre d'art. André Wojcinski répétait qu'une partie de son travail préliminaire se faisait à la rencontre des regards. L'architecte ne doit pas bâtir de la même façon selon les pays dans lesquels il s'exprime. Il doit en permanence composer avec des données géographiques, sociologiques et culturelles. De même, l'architecture n'est pas un chemin de solitude. Elle se nourrit entre autres de tous les artistes qui doivent impérativement participer à la naissance et au développement durable des villes pour créer une véritable géographie des cités. Des bibliothèques ancestrales aux places publiques, de la mémoire atavique au frémissement de la prospective, l'architecte s'inscrit dans une évolution incessante. Il doit savoir l'infléchir sans la perturber, la modifier en se gardant de ne jamais l'altérer. Cette perception de l'architecture est à l'origine de mes premières démarches. Lorsque j'ai engagé ce grand projet de connivence avec la mer, pour Valérie, un regard sur la mer, c'est un regard sur le possible. Alors, j'ai regardé la mer et j'ai rêvé des possibles. Des possibles pour un homme futur qui serait débarrassé de ses armes. Le prédateur vivrait en harmonie avec le milieu. Le pêcheur deviendrait aquaculteur, éleveur. Le chasseur, abandonnant son harpon, deviendrait fermier à l'entraire dans ses fermes marines de paisibles baleines qu'il appellerait Noiraude. Comme Diderot, j'aime mieux qu'on dise « ce n'est pas si insensé qu'on croirait bien » plutôt que de dire « écoutez-moi, voici des choses très sages ». Je suis convaincu que la mer et l'espace incarnent deux des grandes aventures de notre époque qui prêtent encore à rêver. Un rêve prémonitoire, celui de notre devenir lié à l'accomplissement de tout ce que nous sentons au plus profond de nous-mêmes. Là se trouve le fondement véritable de notre mission pour bâtir le futur. J'ai parcouru le monde à la rencontre des peuples de l'eau, étudié leurs réflexes séculaires, leurs échanges avec le biotope. Comme Léonard de Vinci, j'ai observé la nature pour créer une architecture spécifiquement sous-marine, fondée sur la bionique, adaptée à l'homme sous la mer, en totale symbiose avec son nouveau cadre de vie. Jules Verne disait « Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes sont capables de le réaliser. » Il a imaginé 20 milieux sous les mers, Cousteau a concrétisé son rêve en réalisant les premières maisons sous-marines. À plusieurs reprises et des jours durant, j'ai eu le privilège de vivre sous la mer dans des maisons subaquatiques entourées d'êtres exceptionnels. Nous tentions ensemble d'appréhender le futur des hommes de la mer, ceux qu'on appellerait les mériens. Prospective d'une civilisation nouvelle, habiter la mer. Je suis persuadé que c'est de l'océan que naîtra le destin des civilisations à venir. Une architecture dénuée d'humanisme est une architecture vaine. André Vojinski le savait. Si la forme architecturale marque un moment d'histoire, elle se doit aussi d'être pérenne et porteuse d'un rêve futur. On bâtit pour des hommes de l'espace et du temps. L'espace et le temps. Comment s'étonner alors qu'au cours d'une recherche plus personnelle, il se soit passionné pour le concept élaboré par Einstein, concept qu'il intégra à la notion d'architecture dynamique. Dans son ouvrage « Les mains de Le Corbusier », on peut lire « Ce n'est pas seulement l'architecture qui crée de l'énergie dans l'espace, l'espace lui-même qui reçoit l'architecture est un champ d'énergie qui la conditionne. Cette sorte de mutation de la conception spatiale donnera peut-être un jour une architecture à quatre dimensions, un continuum temps-architecture. » Ces mots sont d'une troublante actualité puisqu'aujourd'hui, le fameux collisionneur de particules est sur le point de nous révéler d'autres frontières de la matière, de la connaissance de la vie. Il est des rencontres qui fondent un destin, d'autres qui le forgent et le nourrissent au quotidien. Un autre personnage d'exception a enrichi l'existence d'André Vojinski. Martha Pan, sculptrice renommée. Un personnage exceptionnel a aussi marqué ma vie. Il fut mon maître. Il m'a apporté un soutien sans faille. Il a su me guider tout au long de mon parcours initiatique architectural jusqu'à sa disparition. Il occupe dans ma vie une place privilégiée. Il s'agit de Paul Mémon. Architecte, poète de monde nouveau et surtout grand visionnaire. Les utopies ne sont souvent que des vérités prématurées, disait Lamartine. Paul Mémon a imaginé les plus belles cités sur l'eau, Tokyo, Monaco, et le grand projet d'aménagement de la Seine à travers Paris. Ce dernier n'est pas sans rappeler les projets actuels du Grand Paris qui souhaitent étendre notre métropole jusqu'à la mer. J'ai également partagé, et partage d'ailleurs toujours, la fascination d'André Vojinski pour Le Corbusier. Celui qui a su refondre l'architecture en redéfinissant ses liens avec la société pour lui faire fendre de plein fouet la houle du monde contemporain. Le Corbusier fut le guide omniscient, la conscience, le socle d'un talent en gestation. Il fut le déclencheur, la source d'une vocation hors du commun, mais une vocation dont la maturation nécessitait une alliance. Cette rencontre essentielle, cette alliance symbiotique, fut celle qui s'opéra avec Martha Pan. Liée d'amitié avec de jeunes architectes du cabinet Le Corbusier, elle rencontra André, alors chef d'agence. Ils ne se quittèrent plus. L'alchimie de leur alliance s'élabora au fil d'un quotidien nourri d'échanges sensibles et de réflexions. Architecture et sculpture, un mariage toujours recomposé. Une interpénétration de l'âme et de l'intelligence qui les guidera l'un vers l'autre, jouant sur leur création, infléchissant les trajectoires sans en modifier le sens partagé. Dans son livre « L'œuvre croisée », François Barré rapportait les propos de Martha Pan. Toute l'œuvre, la mienne, la sienne, a été faite en discussion. Il connaissait tous mes projets, je connaissais tous les siens. Le plus souvent, nous étions d'accord, et si nous ne l'étions pas au début, nous l'étions toujours à la fin. Il n'y a jamais eu de rupture entre nous. André ne supportait pas le désaccord et modifiait parfois son projet pour arriver à une vue commune. Un autre cousinage pour les rêveurs aquatiques que je demeure se rappelle à moi. En plusieurs occasions, chez Vojinski et de manière récurrente dans l'œuvre de Martha Pan, l'on retrouve le thème de l'eau. Les sculptures flottantes, une sculpture vivante associée aux saisons et aux mouvements de la nature, je ne peux m'empêcher de les imaginer tous les deux, travaillant à le domaine aquatique et à faire déborder l'eau dans la rue de Siam à Brest, capitale de cette terre de fin bretonne. À l'époque, je passais de longues heures dans cette même ville à concevoir ce qui allait devenir le centre de la mer Océanopolis. En même temps, je bâtissais celui de Boulogne-sur-Mer, Nausicaa. Proximité sensitive et démarche parallèle ou mécanique des fluides prédestinés. Pojinski évoquait souvent ce moment où l'espace architectural perçu se place au-delà du langage. Un instant architectural indicible. On atteint alors cette dimension poétique, cette aspiration transcendantale, point d'orgue de la création ou l'intervention d'un artiste peut parachever l'émotion de l'œuvre. Merci André de nous avoir transmis cette vision où l'art et l'architecture contemporaine sont en adéquation avec la société. Ton travail et ton œuvre constituent à jamais un point de repère pour les générations d'architectes futurs. Pour définir un présent harmonieux, l'architecte doit être en même temps pétri d'héritage et visionnaire du monde à venir. Nourri par le passé, il doit soutenir un regard tourné vers l'horizon. Avec une exigence égale, il doit se soucier du détail trivial attaché au quotidien et des énergies qui circulent entre les êtres, la nature et la matière. Il doit donner du mouvement à l'inamovible, animer le désir et rassurer le quotidien. L'architecte doit enfin dessiner sur les terres ancestrales le profil d'un monde nouveau. Avant de rejoindre la mer avec mes palmes académiques, j'aimerais, dans ce lieu chargé d'histoire, avoir une pensée pour mes parents. Ils seraient si fiers. Je voudrais remercier Sophie, ma tendre épouse, architecte avec qui je partage un bonheur quotidien et mes rêves les plus fous. Merci aussi à toi, Marin, mon fils. Tes questions pertinentes me tiennent en éveil et m'évitent de manquer à trop de certitudes. Merci à vous tous, amis fidèles. Vous n'avez pas besoin que je vous submerge d'une vague d'éloges pour savoir combien je vous estime. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, sous la coupole, pour partager à mes côtés cet instant d'éternité. Avant de vous quitter, je vous dois un cadeau. Je voudrais vous offrir un bref instant de silence venu de la mer pour laisser résonner au cœur de ce grand coquillage de la coupole le souffle de l'océan. Merci.
Mon cher Jacques Rougerie, je vous remercie au nom de mes confrères et à mon nom personnel de l'éloge magnifique que vous venez de rendre à notre ami André Pojinski et également à Marc Tapan, qui était de mes amis. Et je suis très touché, je suis sûr que tout ce que vous nous avez dit sur l'architecture sera un souffle nouveau. Il faut toujours des souffles nouveaux qui viennent de la mer ou du ciel, et je vous en remercie beaucoup.
Vous venez d'entendre l'intégralité de la retransmission de l'installation de Jacques Rougerie au sein de l'Académie des Beaux-Arts, sous la coupole de l'Institut de France, le 3 juin 2009.